selon sa
lune.
Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme du nom de Jaïr, qui était chef de la synagogue, s'approcha de Jésus. Tombant à ses pieds, il le suppliait de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Et tandis qu'il s'y rendait, la foule le serrait à l'étouffer. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, et qui avait dépensé tout son avoir en médecin, sans que nul d'entre eux n'ait pu la guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Et à l'instant même, un flux de sang s'arrêta. Et Jésus demanda : « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent : « Maître, c'est la foule qui te presse et t'écrase, et tu demandes qui t'a touché ?» Jésus reprit : « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découverte, la femme vint toute tremblante et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. » Il parlait encore quand de chez le chef de la synagogue arriva quelqu'un qui lui dit : « Ta fille est morte à présent, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, lui répondit : « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais Jésus leur dit : « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle venait de mourir. Mais Jésus, les ayant tous fait sortir, et l'ayant prise par la main, lui dit à haute voix : « Enfant, lève-toi. » L'esprit lui revint à l'instant même et se leva, puis il ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent saisis de stupeur, mais Jésus leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 28 octobre, nous célébrons la fête de la protection de la Sainte Mère de Dieu. Alors, chez les Slaves, peut-être de manière générale, même dans toute l'œcumène de l'Église orthodoxe, on fête la fête de la protection de la Mère de Dieu le 1er octobre, parce que c'est traditionnellement le 1er octobre que était apparue la Mère de Dieu au Blacherne à Constantinople et qui s'était présentée à un folant Christ, je pense que son nom était Basile, et à un diacre avec son voile et montrait la protection qu'elle donnait à toute l'Église orthodoxe et que c'est grâce à la Mère de Dieu que chacun de nous tous d'ailleurs est protégé. Mais si en Grèce on a bougé la date du 1er octobre vers le 28 octobre, c'est parce que, si je ne me trompe, le 28 octobre, la guerre d'Albanie s'est terminée et c'est en honneur de la Mère de Dieu que cette chose est célébrée, cette fin de la guerre, parce que la Mère de Dieu est apparue à de multiples reprises dans cette région de l'Épire, d'Albanie, du sud de l'Albanie, le nord de la Grèce, où les Grecs avaient à se défendre contre les Italiens, les Albanais et probablement les Allemands aussi. Et vraiment, il y a énormément de témoignages de la Mère de Dieu qui est apparue dans les montagnes et à protéger les Grecs, non seulement protéger les Grecs, mais leur a donné aussi le courage de se défendre contre l'ennemi. Et donc c'est pour ça que cette fête du 1er octobre a été déplacée le 28 octobre. Et nous prenons conscience combien la Mère de Dieu peut intervenir pour nous dans la vie de tous les jours. Elle nous protège et il faut simplement essayer de s'en souvenir. Comme pour tous les saints, ils sont des intercesseurs pour nous auprès de Dieu. La Sainte Mère de Dieu aussi intervient et nous aide dans toutes les difficultés de la vie et nous guide sur le chemin du salut. Et comme je vous le disais, tous les saints aussi, comme la Mère de Dieu. Et pourquoi, effectivement, ils ont spécialement cette caractéristique ou cette force ou cette qualité de protéger, de nous protéger, nous les fidèles, mais pas seulement les fidèles orthodoxes, aussi les autres confessions, même les musulmans. Et la Mère de Dieu intervient à de multiples reprises. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette possibilité? Parce que justement, ils sont habités par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui vit en eux. Et nous avons entendu la lecture de saint Paul aux Hébreux qui explique bien ce qui se passe dans le sanctuaire à Jérusalem, que en réalité ce sanctuaire qui était à Jérusalem est l'annonce de la venue de Dieu dans l'humanité et avant tout dans la personne de la Mère de Dieu. Quand nous entendons que effectivement c'est là où il y a la présence divine dans le temple, eh bien c'est le symbole, ça symbolise la Mère de Dieu, mais aussi tous les éléments qui sont rassemblés dans ce sanctuaire, comme par exemple le rameau qui avait fleuri, le rameau d'Aaron, eh bien ça prouve que cette humanité qui était desséchée, qui était morte, a repris vie grâce à la Mère de Dieu. C'est le symbole de la Mère de Dieu. L'endroit où était gardée la manne qui avait été reçue au désert est aussi le symbole de la Mère de Dieu, c'est-à-dire le récipient dans lequel il y a le pain de vie, c'est-à-dire le Christ. Et tous les saints, peut-être pas dans la grande mesure qu'à la Mère de Dieu, mais tous les saints ont cette caractéristique, c'est d'avoir cette présence de la divinité en eux et de ne plus agir en tant qu'individu, mais d'agir en tant que, ne plus agir en tant qu'humain, mais d'agir avec la force de Dieu. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous invoquons spécialement la Mère de Dieu pour qu'elle nous protège, qu'elle nous guide, qu'elle nous fasse vivre dans la vertu, dans la justice, de justesse, et que nous évitions toutes les embûches, toutes les tentations, tous les péchés dont parle finalement cet évangile. Il explique comme cette nature pécheresse est la propriété de l'homme déchu, et cet évangile est assez explicite. D'une part, il y a Jaïr dont la fille est sur le point de mourir, qui a 12 ans, et d'autre part, il y a cette femme qui perd son sang, l'hémorroïs, qui aussi est malade depuis 12 ans. Eh bien, ces deux femmes sont la représentation de l'humanité, de cette humanité qui est dans la souffrance, dans la douleur, dans la maladie, mais ici, c'est spécialement en mettant l'accent sur la maladie spirituelle, c'est-à-dire que toutes les passions que nous avons en nous sont des choses qui nous épuisent. Le fait d'avoir ces passions et de ne pas savoir les traiter, ça nous épuise, surtout quand nous arrivons jusqu'à accomplir le péché. Ce sont des choses qui nous vident de notre vie spirituelle, qui nous vident de notre énergie divine. Et on sent que nous sommes vidés de l'intérieur, que nous sommes perdus quelque part et que nous allons vers la mort à cause de ces passions qui nous minent à l'intérieur. Et souvent, on essaye de les assouvir ou de les calmer, ces passions. Et comme le dit cet évangile, on peut aller voir divers médecins de manière symbolique, c'est-à-dire qu'on peut trouver une petite consolation dans tous ces assouvissements de passion que nous arrivons peut-être à assouvir momentanément par certains plaisirs, par certaines choses qui nous font plaisir, mais reste cette passion qui nous épuise. Et aucun médecin, c'est-à-dire aucun médecin mondain ne peut nous guérir, c'est-à-dire qu'aucun accomplissement de ces désirs, de ces passions qui mènent au péché ne peut véritablement nous assouvir. La seule personne, la seule chose, la seule entité qui peut véritablement nous guérir, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui arrive à donner et à nous libérer, à donner cette énergie divine et à nous libérer de ce flux des passions qui nous vident de notre essence, c'est-à-dire de notre sang au niveau symbolique, qui nous vide de notre essence, de notre vie spirituelle, de notre énergie divine. Eh bien, c'est le Christ qui peut nous le donner. Comment est-ce qu'il peut nous le donner? Eh bien, justement, en étant en relation avec lui, en le touchant, en touchant le Christ à travers la prière, à travers les sacrements, à travers les offices, eh bien, nous récupérons cette énergie divine. Nous arrivons à revivre de l'intérieur. Et c'est lui le véritable médecin de nos âmes et de notre esprit, mais souvent aussi de notre corps. C'est par cette vie en Christ que nous arrivons à récupérer la santé véritable. Voilà ce que nous apprend l'évangile d'aujourd'hui, chose évidemment que nous savons déjà, mais quand nous venons à l'église, quand nous participons au sacrement, nous allons nous guérir, nous allons rencontrer le Christ. Quand nous prions chez nous à la maison, nous ne le faisons pas par obligation, mais parce que grâce à notre prière humble, avec repentir, nous recevons la grâce de la guérison. Nous arrivons à calmer nos passions et à les changer en vertu. C'est la même chose que cet évangile raconte avec cette fille de 12 ans, fille unique d'un notable d'Israël. Eh bien, si nous continuons dans notre vie sans nous adresser au Christ, eh bien, nous allons vers la mort. Et nous pouvons finalement, effectivement, nous éloigner totalement de Dieu, un petit peu comme présente cette fille qui est morte. Cette fille qui est morte, c'était l'image de notre éloignement de Dieu qui va jusqu'à la mort. Dans ce cas, effectivement, il faut avoir une autre personne qui intervienne pour nous. Ici, c'était le père de la jeune fille. Eh bien, c'est souvent aussi quand nous prions pour les autres que nous arrivons à les sortir de leur enfermement, de leur mort. Et nous aussi, nous devons peut-être demander aux autres, quand nous sommes plus affaiblis, de prier pour nous, de faire en sorte qu'ils nous aident. Voilà ce que nous annonce cet évangile d'aujourd'hui, de ne pas nous éloigner du Christ, de ne pas nous éloigner de cette source vivifiante, cette source d'où sort l'énergie, comme le Christ le dit tellement clairement. Je sens bien qu'une force est sorti de moi. Eh bien, c'est ce que le Christ nous donne à chaque fois que nous le rencontrons, à travers, comme je vous disais, la prière, que ce soit chez nous à la maison, ou à travers la prière dans l'Église, ou à travers les sacrements. C'est toujours le Christ que nous rencontrons. C'est lui que nous devons essayer de rencontrer le plus souvent possible dans notre vie pour que nous n'arrivions pas à cette maladie qui mène à la mort. Voilà ce que nous annonce cette évangile et cette lecture, que nous sommes appelés à devenir des saints, à devenir des personnes remplies de l'énergie divine. Ainsi, nous pourrons nous-mêmes vivre dans la félicité, mais aussi nous arriverons à aider les autres, à faire comme les saints le font, d'être des protecteurs pour nous. Voilà ce à quoi nous appelle toujours notre vie en Christ, notre vie de chrétien. Essayons de tenir bon, de ne pas abandonner le manteau du Christ, le manteau de la Mère de Dieu, parce que c'est à travers eux, effectivement, que nous trouvons la félicité et nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Amen.